Bienvenue à ce sixième podcast de Mon Clavius. Pour cette édition, on s'est rendu directement à Québec lors de la GIC pour réaliser des entrevues. On aura entre autres M. Jean-François Bergeron, le PDG de la SQDC, qui va nous entretenir de son modèle d'affaires du numérique par rapport au cannabis avec la SQDC que nous connaissons et qui se déploie à travers le Québec. Veuillez noter que les entrevues ont été réalisées par Jean Duplain et on se retrouve avec le mot de la fin.
Donc, je suis en direct de la GIC 2019. Je suis en compagnie de M. Dave Fizet, qui est directeur de la direction des technologies de l'information de l'Université Laval depuis septembre 2018, si je m'abuse.
Effectivement. Vous avez bien écouté mon introduction. Donc, un peu plus d'un an en poste au niveau de la DTI à l'Université Laval.
Parfait. Quel est... D'entrée de jeu, j'aimerais vous demander, parce que quand on arrive dans un nouveau poste, il y a toujours une espèce de courbe d'apprentissage et tout ça. Mais quel a été le plus grand défi que vous avez dû faire face cette année?
Bien, en fait, courbe d'apprentissage, peu dans mon cas, parce que je provenais de la boîte. Donc, c'était une promotion pour moi à l'interne. Et puis, je connaissais quand même assez bien l'ensemble de l'unité. Je m'occupais, moi, précédemment de tout ce qui était bureau de projet, gestion de portefeuille. Et puis, on les voyait depuis déjà quelques années, les enjeux qu'on avait. Puis, il fallait provoquer un changement majeur. Donc, ce qui a été le plus difficile dans la dernière année, c'est d'initier le changement avec tout le middle management, toute la couche de gestion. Quand j'ai pris les rênes de l'unité, on était 25 cadres et puis on est présentement à 10. Donc, dans la dernière année, on a réduit de 15 cadres. Et puis, la période cruciale a été de marquer l'imaginaire, de provoquer le changement, puis de gérer cette diminution-là. Donc, on a procédé par une restructuration complète, puis on a fait table rase de l'équipe de gestion. Puis on est reparti en neuf. On a créé des nouveaux postes, on les a affichés, puis on a demandé aux gens de réappliquer dessus. C'est sûr qu'il y a eu des heureux, il y a eu des malheureux. Et puis, mais un coup qu'on a été lancé avec cette initiative-là, déjà ça nous a mis ailleurs. Et puis, on a été capable d'avancer avec le plan qu'on avait en tête. Le true north qu'on avait défini, on était capable de l'exécuter maintenant.
Vous avez quand même, au niveau des étudiants au département de technologie de l'information, de l'informatique, vous avez quand même un beau bassin de talent qui est là. Est-ce que, pour contrer la pénurie de main-d'œuvre, tout ça, est-ce que vous êtes proactif pour aller justement recruter des talents au sein même parmi les étudiants?
Oui, on a déjà des stagiaires depuis plusieurs années qu'on inclut dans nos initiatives, nos différents projets. Par contre, cette année, on veut le pousser à un tout autre niveau. C'est la façon de recruter, selon moi. Puis, on a la chance de pouvoir se brancher à cette pépinière-là. On a la chance d'établir des liens qui sont peut-être pas assez formels jusqu'à maintenant avec certains profs qui sont très, très au fait des bons étudiants. Mm-hmm. Donc, faut trouver une façon d'encore plus se servir dans ce bassin-là. Puis, ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on offre des stages, on offre des emplois étudiants, puis on permet à nos étudiants de travailler dans les technologies qu'ils utilisent pour faire leurs apprentissages. Puis, il y a moyen de s'abreuver de toutes leurs bonnes idées pour pousser ça à un autre niveau. Donc, on le fait, oui, depuis déjà plusieurs années, mais cette année, on a pris la décision de l'accentuer, puis d'être présent beaucoup plus auprès d'eux pour favoriser le recrutement.
J'imagine que c'est des stages rémunérés pour la plupart.
Oui, des stages rémunérés. On est compétitif dans le marché. Puis, pour tout bon stagiaire, il y a une offre d'emploi qui vient avec ça aussitôt que son diplôme est acquis. Donc, on réussit bon an, mal an à chaque année à recruter un bon nombre de personnes, puis à leur offrir un travail concret, puis de les garder à l'université.
Okay. Tantôt, vous disiez aussi pendant le panel qu'une des grandes richesses que vous aviez, c'était entre autres les chercheurs qui étaient à l'université et tout ça. De quelle façon vous travaillez avec les chercheurs? Parce que je sais que vous l'avez dit, les chercheurs, il faut les laisser chercher, mais à un moment donné, il faut que la recherche aussi devienne appliquée. De quelle façon vous travaillez avec eux à ce niveau-là?
La recherche nécessite de plus en plus de TI. On est à l'époque où il faut collecter, stocker une panoplie d'informations. Puis, les TI doivent être au service des chercheurs, doivent faciliter l'utilisation des différents outils. Leur permettre de vraiment focusser sur leur travail premier, de trouver des remèdes, de trouver des nouvelles solutions pour aborder des problématiques. Donc, on essaye de se brancher à eux. On a une nouvelle équipe de direction chez nous au niveau du vice-rectorat à la recherche, une gouvernance jeune, dynamique, des gens qui ont beaucoup de vision. Et puis, c'est un plaisir pour nous de s'associer à eux, puis de d'enabler, si vous me permettez l'expression, toutes leurs bonnes idées, pour qu'on soit toujours en progression d'un point de vue recherche à l'université. On est présentement classé 7e au Canada comme université de recherche, puis c'est clair qu'il y a des ambitions de monter dans les rangs.
Tantôt, durant la discussion de M. Fitzgibbon, on parlait entre autres de cybersécurité, d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est la journée tendance 2020 de la GIC. Selon vous, quelles sont les tendances à court et à moyen terme au niveau des technologies de l'information?
Je reviens justement du symposium IT Expo Gartner qui avait lieu à Orlando il y a 2-3 semaines.
Organisé par Gartner?
Oui, organisé par Gartner. Passé une semaine au show avec plus de 9000 collègues CIO partout dans le monde, mais principalement des Amériques. Et puis, ce qui était le fun de voir, c'est que la transformation qu'on a amorcée dans la dernière année, on est très, très aligné sur les tendances en termes de gouvernance dans le marché, on se place assez bien. Où on ne met pas assez d'efforts présentement, en tout cas dans le cadre de l'Université Laval, puis où on va maximiser nos efforts dans la prochaine année, c'est dans l'utilisation du cloud, du BI, Business Intelligence, et puis de l'intelligence artificielle. Les solutions sont là. On doit, par contre, les rendre plus accessibles à nos employés. Nos employés là, sont dédiés aux différentes initiatives, aux différents projets qu'on a réalisés. Puis à un moment donné, on finit par oublier de les développer. On finit par oublier de leur garder du temps pour qu'ils se mettent à jour. Et puis donc, dans la prochaine année, c'est clair qu'on va les rapprocher de ces opportunités-là, parce que je suis profondément convaincu qu'on peut réduire le coût de certaines de nos initiatives en profitant de ce qui existe déjà dans le marché. Malheureusement, présentement, comme nos gens n'ont pas assez touché à ça, on n'en profite pas, on pense que ça n'existe pas. Mais finalement, quand on regarde, on ferait peut-être certaines choses différemment. Fait qu'il faut trouver une façon de les faire baigner là-dedans. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est clair qu'il va y avoir soit des économies, soit des bénéfices, ou de la valeur qui va être livrée plus rapidement à nos différents partenaires au niveau de l'université.
Bien, je vous remercie beaucoup du temps que vous avez accordé pour l'entrevue.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
Merci. C'était vraiment. Donc, on est en direct de la GIC 2019. Je suis en compagnie de M. Guy Veillé, qui est chef du développement des affaires pour CoH. Première question. D'abord, je viens d'entendre votre conférence, très bonne conférence en Merci passant, beaucoup. Qui a fait, je pense, un bon tour de ce qui se fait présentement au niveau de la cybersécurité, aussi des stratégies à mettre en place et tout ça. Ma première question, c'est un peu ça, c'est est-ce que justement, on voit aujourd'hui, on va avoir plusieurs conférences autour de la cybersécurité et tout ça, est-ce que c'est directement relié aux événements, entre autres, que Desjardins a vécu, Equifax et tout ça? Si on en parle autant, c'est-tu circonstanciel ou à l'avenir, ça va être un sujet qui va prendre de plus en plus d'importance?
En fait, les deux. Je pense que, encore comme j'ai dit dans ma présentation, on a eu un déclic, puis ce déclic-là, ça a été ce qui s'est passé justement cet été avec les brèches de données. Il y a d'autres pays qui ont eu ce déclic-là, il y a bien avant ça en fait. On pense à l'Estonie, qui, je crois que c'est en 2008, qui ont été attaqués, ou en 2008-2013, qui ont été attaqués par les Russes puis l'ensemble du système étatique a été mis à risque. Puis suivant ça, l'Estonie a changé leur façon de faire, puis maintenant ont avancé. Puis c'est encore un sujet qui est chaud en Estonie, la cybersécurité, puis la protection de la donnée. Et je pense que le point, c'est pas juste de parler de cybersécurité en soi. La cybersécurité, c'est la protection de l'information, la protection de la donnée. Puis qu'en bout de ligne, si les organisations veulent avancer, il faut qu'ils soient capables d'avoir le plein contrôle de leur information, de leurs données. Puis c'est pas juste des formats numériques, c'est aussi le message qui est véhiculé au sein des organisations. Fait que ça fait partie de quelque chose qui est en train, vu que l'information, les données sont en train de prendre de plus en plus de place. À terme, ça va continuer, la cybersécurité va continuer à prendre la place. Parler un peu longtemps, tu crois?
C'est parfait. On regarde au niveau mondial présentement, un des gros joueurs au niveau de la cybersécurité, c'est Israël. Oui. Entre autres parce que beaucoup de startups qui ont en Israël viennent de des gens qui ont passé par les forces armées. Oui. Parce que eux autres, sont obligés d'aller faire un passage par les forces armées, puis c'est obligatoire.
Oui.
Vous avez justement un passé au niveau des forces armées canadiennes et tout ça. Est-ce que l'approche militaire est la bonne approche quand on arrive à parler de cybersécurité?
Je pense que présentement, encore là, je peux partir sur une longue histoire.
Oui.
Je pense que présentement, l'approche militaire est la meilleure approche parce que les militaires sont à l'avant-plan de qu'est-ce qui se passe. Le problème, c'est qu'avant, tout ce qui était défense, c'était dans les mains des polices ou des militaires. Et ça a été mis de côté. Puis avec l'évolution, maintenant, les organisations doivent se défendre elles-mêmes. Fait qu'il y a un vacuum, il y a un vide. Puis c'est finalement les gens qui viennent des organisations qui ont une capacité puis une connaissance de comment régler ces problèmes-là qui peuvent aider les autres organisations. Israël, le cas israélien, en fait, ça aide parce qu'il y a tout le temps une pression sur Israël de se défendre. Ils ont tout le temps été victimes d'attaques. Donc, ils ont un bon bassin. Puis maintenant, ils l'exportent.
C'est comme un réflexe.
C'est un réflexe.
Naturel.
Définitivement, c'est un réflexe pour eux. Puis présentement, aux États-Unis, ils commencent à avoir aussi des bonnes compagnies. Puis encore là, il y a des gens qui ont fait leur carrière puis leur vie dans la cybersécurité, ils n'ont jamais été militaires. Mais c'est juste que là, maintenant, ces deux mondes-là commencent à se rassembler puis commencent à jouer dans le même terre-plein, je dirais. C'est, ouais. C'est une bonne question. C'est une très bonne question.
Oui, puis on voit que les gouvernements, entre autres, M. Fitzgibbon était ici hier soir, puis ben, il démontrait justement toute l'importance de la cybersécurité, puis comment le gouvernement québécois entendait investir dans les années à venir, puis tout ça autour de tout ça. Pis selon vous, quelle serait une bonne stratégie pour le Canada? Parce qu'on sait qu'il y a des gros joueurs ailleurs, fait que je pense qu'il faut faire peut-être les choses autrement, mais en même temps, il y a comme une urgence d'agir. Là.
La meilleure stratégie, puis en fait, je sais que j'ai entendu, encore là, je ne suis pas spécialiste de la stratégie qui est en train de
mettre en place. Tantôt, vous avez parlé de partenariat avec...
Voir qu'est-ce qui s'est passé justement sur le cas estonien, c'est un bon exemple de choses à faire. Je pense que de faire des partenariats, de mettre ensemble plein d'organisations, puis de faire en sorte que ces organisations-là puissent se structurer efficacement, puis s'assurer d'avoir un plein contrôle des données à l'ensemble du pays, c'est essentiel. Définitivement. Je pense que il faut qu'il y ait des partenariats publics-privés. Je crois que parce que le privé a les connaissances. Puis encore là, pour revenir un petit peu à ce que je disais tantôt, il y a des compagnies qui, ça fait longtemps, qui font de la cybersécurité, qui se connaissent. Le penchant gouvernemental, surtout au Québec, n'a pas cette capacité-là. Donc, il faut qu'il y ait des partenariats publics-privés. Puis il faut que ce soit mis à l'ensemble du Canada en tant que tel. Donc oui, CyberEco, Can Cyber, InSecM, plus d'acteurs comme ça, plus de partenariats.
Non, c'est très bon. Tantôt, on parlait de l'approche agile et tout ça, puis hier, on avait une conférence là-dessus. Est-ce que justement le fait d'enlever des silos, d'ouvrir les données un peu à tous les secteurs, de rendre les données plus disponibles au niveau de l'entreprise, n'a pas amené justement le genre de situation qu'on voit présentement avec Desjardins, entre autres?
Bien, si c'est pas fait dans une stratégie cohérente, c'est sûr que ça augmente le risque. C'est vraiment, puis c'est justement ça le problème, c'est que les silos ont été enlevés, puis on se retrouve à avoir un partage d'informations at large qui n'est pas contrôlé. Donc là, oui, on augmente le
risque. Qui n'est pas réfléchi.
Puis encore là, il y a beaucoup de facteurs humains qui sont liés à ça. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de rotations, il y a beaucoup d'informations qui est laissées, qui traînent à gauche, à droite dans les serveurs, que les gens n'ont aucune idée qu'est-ce qui est où et qu'est-ce qui fait quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre en place une stratégie cohérente. Il faut structurer son organisation. Il faut aussi faire un suivi tout au long de qu'est-ce qui se passe. Puis, je tiens à dire, il n'y a rien de mal d'avoir les silos. Tant aussi longtemps que les silos communiquent entre eux efficacement, qu'ils sont capables d'atteindre finalement l'objectif.
Qui est la mission, la poursuite de la mission d'entreprise, dans le fond de comme vous parliez. Bien, merci beaucoup, M. Veillé, de l'entretien. On ne peut malheureusement pas parler de COH pour l'instant, mais on va vous suivre avec attention.
Oui, dans les prochains mois, vous allez vraiment entendre beaucoup parler de COH, je peux vous le dire. Je peux vous l'assurer, en fait.
Bien, merci beaucoup.
Merci à toi.
Alors, on est en direct de la GIC 2019 en compagnie de M. Jean-François Bergeron, président directeur général de la Société québécoise du cannabis. Bonjour, M. Bergeron.
Bonjour.
Tout d'abord, d'entrée de jeu, on sait que vous avez vécu une grosse année au niveau du déploiement du modèle d'affaires, puis tout ça, des services de la SQDC. Est-ce que c'est un peu à ça à lequel vous vous attendiez ou il y a eu beaucoup d'éléments de surprise en cours de route?
Bien, il faut dire que on était quand même préparé. On avait commencé le projet à peu près un an avant le 17 octobre. On savait que ça serait un démarrage difficile parce qu'on savait que l'approvisionnement, que les producteurs auraient de la difficulté à fournir la demande.
Donc ça, la demande, dans le fond, était le grand point d'interrogation dans la mise en place de tout ça, étant donné que le marché était un marché noir, c'était de savoir à quel point les gens allaient venir dans une succursale.
Mais dans les faits, c'était pas tellement les prévisions, parce que je vous dirais ça, on était pas mal sur nos prévisions. En fait, le défi était plutôt les producteurs n'étaient pas prêts à rencontrer leur capacité de production ou de culture qu'ils avaient annoncée. Il faut comprendre que l'industrie, elle n'existait pas. Il y avait un peu de médicinal dans l'équation depuis 4-5 ans, mais c'était encore très artisanal. Et soudainement, ces producteurs-là ont passé d'une production plus limitée à une production de masse. Et ce n'était pas tellement non plus dans la culture qui était le problème, plus que dans ce que j'appelle le packaging, donc le pick and pack, vraiment l'embouteillage, l'étiquetage, l'emballage. Ça a été des points de pression, des points de contention. Ce qui fait que ça a pris 6-7 mois là, avant que les producteurs réussissent à trouver un air d'aller en termes de capacité.
Une rotation de culture.
Oui, c'est ça. Et puis, mais les producteurs ont tous des capacités de production extrêmement importantes. Je vous dirais même que l'année prochaine, on va sûrement parler d'une capacité qui excède le marché au Canada. Il faut aussi comprendre que on ne peut pas s'approvisionner de n'importe quel producteur. Il faut que ce soit un producteur qui est autorisé par Santé Canada. Donc, c'est seulement dans ces producteurs-là avec qui on peut faire affaire. Et au Québec, on s'est imposé une vérification de plus qui est tout à fait légitime, qui est une autorisation de l'Autorité des marchés publics. Donc, les producteurs ne doivent pas seulement avoir leur licence du fédéral, mais ils doivent avoir une autorisation de la province, de l'Autorité des marchés publics, comme quoi que leur actionnariat est propre. Qu'il n'y a pas de lien avec le crime organisé. Puis okay. Alors ça aussi, c'est des délais additionnels. Mais on est maintenant dans une position où on surveille l'approvisionnement, mais ce n'est plus un enjeu. C'est plus un défi.
Parfait. Un des grands objectifs de la légalisation de la marijuana était, entre autres, de faire de l'éducation, de la prévention. À ce niveau-là, est-ce que c'est chaque province qui va devoir intervenir? Donc, vous allez devoir vous occuper de ça. Y a-t-il une partie du budget qui est réservée à ça? Comment allez-vous fonctionner?
Oui, bien, c'est une excellente question. D'abord, le fédéral, lui, il s'est occupé seulement de la législation au niveau de la légalisation et a donné le pouvoir aux provinces de définir leur modèle de distribution et de vente. Le Québec a pris une orientation beaucoup plus propre au Québec par rapport au fait que c'est un angle de protection de la santé. Les autres provinces, bien sûr, ont la santé à cœur, mais c'est plutôt un angle de moteur économique que les provinces ont opté, alors que le Québec a opté plutôt pour un angle de protection de la santé. Donc oui, on fait du commerce, mais on fait du commerce dans une perspective de protection de la santé. Et la mission, elle est claire. Nous, elle est vraiment bien définie par la loi. Mm-hmm. C'est de migrer le marché noir. Donc, on ne fait pas la promotion de la consommation. On fait vraiment, on va migrer le marché noir, mais dans un contexte de produits contrôlés, donc un produit de qualité qui est contrôlé. On ne peut pas faire de promotion. La loi est très, très stricte là-dessus. Et on peut pas parler d'effet. On peut pas. Donc, le script pour nous conseiller en magasin est très strict. Là. On peut pas encourager un produit plus qu'un autre. Donc, c'est vraiment toute l'information qui est véhiculée dans nos succursales est approuvée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les bénéfices qui sont générés par l'opération de la SQDC, et il y en a, sont transférés au ministère de la Santé et des Services sociaux qui, eux, investissent dans des programmes de recherche, dans des programmes de prévention. Donc, nous, on est le moteur financier pour générer des fonds pour que le ministère puisse déclencher des programmes de
sensibilisation,
offrir des services. Okay. Mais ce n'est pas notre mission, nous, proprement dit. Nous, on est vraiment le commerçant. Nous, étant la SQDC, on est le commerçant.
Okay. Vous avez parlé d'entrée de jeu tantôt lors de votre conférence, de la vision un peu que vous vouliez mettre en place. Quelle est cette vision-là, disons, dans un horizon de 5 ans, parce qu'on sait que vous ouvrez encore beaucoup de succursales un peu partout dans les régions, entre autres. Où voyez-vous la SQDC dans 5 ans?
Ouais. C'est un dossier qui est encore un peu en élaboration, parce qu'il y a du politique, parce qu'il y a du social, il y a de l'acceptabilité sociale. Mais je vous dirais qu'il y a trois vecteurs pour aller chercher le marché noir. D'abord, ça prend une offre complète. Donc, ça prend les produits qu'on pourrait retrouver sur le marché noir. Ensuite, ça prend des prix compétitifs pour aller chercher aussi le marché noir.
Et ça prend... sent que ces prix-là encouragent la consommation.
Oui, mais vous savez, c'est vrai.
La
mais la réalité, c'est de compétitionner le marché noir. Alors, quand que le marché noir ne paye pas de taxes, ne paye pas de conformité, ça ne devrait pas être un problème, ce bout-là. T'sais, je crois que si on a des bons prix, et je crois que le consommateur il est peut-être même prêt à payer un excédent, tant que c'est raisonnable, pour avoir un produit de qualité contrôlé. Moi, je pense que le consommateur est prêt, mais aujourd'hui, la SQDC a des produits très compétitifs avec le marché noir. Et le troisième vecteur qui est important pour chercher le marché noir, c'est l'accessibilité. Il faut qu'il y ait des points de vente. Bien sûr, tu as le web, mais c'est un produit qui est encore consommé dans l'immédiat. Il y a des gens qui vont privilégier de passer par une succursale pour la portion vitesse d'achat, si vous voulez. Alors que le web, ça peut prendre une couple de jours avant, ça peut prendre quelques jours avant de le recevoir.
Excusez ma question, mais je ne connais pas tout à fait non plus la SQDC, mais la vente en ligne présentement ne se fait pas de votre côté.
Oui, elle se fait.
Elle se fait, OK.
Ah oui, absolument. Il y a à peu près 15 % de nos ventes qui se fait en ligne
en
aujourd'hui.
Ligne.
Okay. Et dans le commerce de détail québécois, il y a beaucoup, tu sais, tous les commerçants, dans le commerce de détail, il y a beaucoup d'investissements qui se fait au niveau du numérique. Mais dans les faits, il y a encore beaucoup de commerçants qui ont de la difficulté à monétiser leur investissement sur le web. Encore aujourd'hui, le brick et mortier est très fort au Québec. Mm-hmm. Bien sûr, on connaît tous des Amazon de ce monde, mais en réalité, si vous regardez les détaillants québécois, leur chiffre d'affaires sur le web versus la proportion, versus en succursale, est encore une grosse proportion qui se fait dans les magasins. Alors nous, on vise d'atteindre à peu près 30 % de nos ventes qui devraient se faire sur le web, mais la réalité, c'est qu'actuellement, on est plutôt autour de 12-13 %. Ce qui est quand même très, très bien si on compare à d'autres commerces de détail. Un produit qui, selon nous, se prête bien à l'achat du web.
OK. Puis, étant donné votre passé en technologie de l'information, vous avez fait carrière essentiellement du côté des TI dans votre vie, puis tout ça. Là, vous êtes du côté managérial un peu, puis tout ça. Est-ce que la marche a été haute quand même ou ça s'est fait quand même facilement dans la dernière année?
Bien, en fait, pour moi... ça fait déjà plus de 15 ans que je suis dans l'exécutif. Alors que tu sois en technologie de l'information ou en finance ou en ressources humaines, quand tu es dans la couche exécutive, la strate, j'allais dire, oui, tout à fait, ben, nécessairement, tu es un expert de ton domaine, mais tu deviens quand même plus chevronné au niveau managérial, pour prendre tes termes. Mm-hmm. Ceci dit, j'ai aussi souvent eu un deuxième chapeau dans ma carrière. Oui, j'avais les technologies de l'information, mais j'avais aussi la chaîne d'approvisionnement, souvent. Alors, c'est ces deux chapeaux-là qui ont été mis fortement à contribution dans le projet de la SQDC. Parce que c'était ça, en fait, c'était une chaîne d'approvisionnement avec des systèmes informatiques dans des délais extrêmement serrés. Alors, j'ai pu mettre à profit en plus mes connaissances de base, non seulement au niveau managérial, mais au niveau technologique.
En tout cas, merci de nous avoir accordé cette entrevue, tout ça. Puis, en tout cas, félicitations pour le travail accompli dans la dernière année. Beaucoup. Je pense que vous avez su relever des défis. Puis, vous n'avez quand même pas eu beaucoup de temps pour tout mettre ça en place. C'est relativement court. Puis, c'était tout un défi.
Tout un défi.
Ouais.
Merci beaucoup.
Donc, on est en direct de l'AGIC 2019. Je suis en compagnie de Julien Bonny, qui est fondateur de Blockchain Hub Québec, entre autres, parce que Julien, tu as quand même un parcours qui est assez impressionnant. Parle-nous un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à fonder, entre autres, cet organisme-là?
Je pourrais partir de mes débuts à l'université. Donc, j'ai fait mes études en finance à l'Université Laval. Puis, très tôt, je me suis impliqué dans tout ce qui était domaine financier. Dans le fond, je faisais partie du fonds Alpha qui gérait le fonds de l'administration, donc les étudiants d'administration de la faculté d'admin. On gérait ce fonds-là. Puis ça m'a amené, c'est toujours des circonstances en fait, ça nous a amené à faire des chroniques au Canal Argent. Donc pendant 3 ans, de 2012 à 2015, j'ai fait des chroniques au Canal Argent où que à chaque vendredi, on venait comme un œil nouveau de la jeunesse, dire voici où est-ce qu'on va, on voit qu'il y a de la valeur, où est-ce qu'il faudrait peut-être investir. Et c'est durant une des émissions, là, en avril 2013, je m'en souviens encore, là, je préparais ma prochaine émission, que j'ai découvert c'était quoi le Bitcoin. Puis là, ça m'a ouvert à tout ce monde-là des possibilités. Je me suis mis, sans trop le savoir, le vouloir, à vraiment juste focusser beaucoup mon attention là-dessus, parce qu'on parle beaucoup de technologie également, fait que j'apprenais énormément. Puis ça m'a amené à lancer ma première entreprise dans le milieu. C'était en 2014, à l'ENI, où que j'offrais des services de consultation. Puis c'était vraiment trop tôt aussi à ce moment-là. Donc, c'était vraiment
sur ton temps.
Exact. C'était d'informer les gens c'est quoi. Puis j'aidais aussi des entreprises à accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. Je venais leur ajouter un Pay with Bitcoin pour recevoir des donations, que ce soit sur Internet, et même recevoir des paiements. Puis par la suite, mon expérience au niveau des crypto-monnaies et tout, bon, je me suis retrouvé ailleurs, qui est au niveau de la culture et du tourisme. Donc, avec des amis, on a participé à un concours qu'on a remporté. Il était à la fois à Québec et Montréal. Puis on a lancé Swipe Silly, la plateforme.
Qui était en réalité virtuelle?
Non, en fait, c'est avec la géolocalisation. Donc, au fond, les gens devenaient leur propre guide. Puis à l'aide d'une app, ils suivaient des parcours. Et quand ils arrivaient à des endroits, ils débloquaient des notifications. Donc, ils recevaient des notifications géolocalisées pour découvrir du contenu. Donc, c'est à la fois aussi du joke catching et tout. Cette expérience-là, ça a bien été, mais bon, on a dû arrêter. Ça a duré 3 ans. On a dû arrêter là, vers la mi-2018 là, par manque de financement. Ça coûte quand même assez cher de développer des grosses plateformes de même où il faut les deux, à la fois B2B, B2G et B2C, parce qu'il fallait développer la plateforme. Et donc, au début de l'année dernière, c'est là qu'on a lancé Blockchain Hub Québec suite à la demande. Donc, on a vu vraiment qu'au Québec, surtout, dans la ville de Québec, il y avait beaucoup de cerveaux qui étaient dans ce milieu-là, qui sont impliqués. Il y a beaucoup d'innovations qui sont faites. Puis là, au lieu que les gens restent dans leur sous-sol et tout, mais c'est de les amener à sortir de chez eux et de dire hey, sur quoi vous travaillez, là? Il y a une valeur. Bien, on va promouvoir les innovations.
Une espèce de communauté apprenante autour de la blockchain pour la ville de Québec, entre autres.
Exact. Donc là, c'est des événements qu'on fait. Donc Blockchain Hub Québec, c'est une OBNL. Je suis l'un des cofondateurs. On est 7 cofondateurs là. Donc c'est tous des gens passionnés qui mettent de leur temps pour vraiment démocratiser ça puis promouvoir les différentes utilisations. Donc les gens qui ont des idées, qui sont tout seuls dans leur coin ou qui ont peur d'en parler, mais aller voir les autres qui sont dans la même communauté, puis vraiment les mettre de l'avant. Et donc là, récemment également, donc là, c'est vraiment plus focusé crypto-monnaie Bitcoin. J'ai su le directeur là, des opérations de Valeo X. Donc là, on voit cette tendance-là des institutions. Mm-hmm. Donc, juste pour faire un exemple, les premières personnes qui ont adopté le Bitcoin, c'était les geeks et tout ça. Donc, c'est comme si on avait inversé. Là, aujourd'hui, ceux qui en veulent, ce sont les banques, les institutions, les family office, parce qu'ils veulent offrir des produits dérivés de ça. Donc là, c'est à travers le monde, la demande est juste gigantesque, mais ils ne savent pas par où le faire de manière sécuritaire, sans avoir nécessairement à aller sur des sites d'échange et tout. Donc, nous, notre service, c'est cela. Donc, on appelle ça un marché OTC, over the counter, pour vraiment répondre à cette demande d'approvisionnement là, en Bitcoin, donc d'achat et vente pour les grandes institutions, là, puis toutes ces institutions financières et ces family office qui veulent rentrer dans le marché. Donc, c'est résumé rapidement.
Vous allez faire affaire un peu avec toutes les crypto-monnaies qui existent présentement.
C'est principalement Bitcoin. Donc, on veut
onboard. Une espèce de broker.
On veut onboard les gens, mais de manière sécuritaire, parce que beaucoup de gens s'y intéressent, mais à cause des scandales, des fraudes, il y a comme un layer de sécurité qui est moins là. Donc là, c'est vraiment une solution qui est complètement réglementée avec l'AMF. D'ailleurs, on attend présentement, à l'heure actuelle, on attend tous nos permis là, pour pouvoir exploiter. Tant qu'on les a pas, on ne pourra pas exploiter. Mais on est déjà en discussion avec les réglementeurs pour avoir tout ce qui est de la vérification KYC et d'offrir un service qui va être simple et aussi sécuritaire pour les gens de pouvoir se procurer crypto-monnaie. Mais vraiment cette clientèle-là qui s'en vient, là, donc des fortunés et aussi des banques là, qui commencent à s'y intéresser.
En fait, là, ce que je me rends compte, c'est au niveau de la crypto-monnaie et de la blockchain en général, c'est un peu comme quand Uber est arrivé et tout ça. On dirait qu'au départ, la réglementation n'était pas là parce qu'on ne croyait pas que ça pouvait prendre cette ampleur-là. Une fois qu'on a vu que le marché était là et tout ça, bien là, on est obligé d'essayer de suivre. On dirait que c'est toujours à la remorque un peu du potentiel des technologies.
Oui, puis chaque pays, je pense qu'il commence à le remarquer, chaque pays est en compétition pour sa propre réglementation dans ce milieu. Mm-hmm. Donc, on peut donner le meilleur exemple, c'est l'AI. L'AI, là, c'est rendu une guerre économique entre la Chine puis les États-Unis pour les propriétés intellectuelles. Mais c'est la même chose qui commence en ce moment au niveau du blockchain, où qu'il y a des pays que leur réglementation, ils voient cette innovation-là qui s'en vient. Fait que là, ils sont en train de changer ou de mettre leur réglementation beaucoup plus favorable, qui va amener une attraction des talents et aussi des entreprises. Donc, mais quand même, ici au Canada, au Québec, la réglementation, elle est vraiment favorable. Puis, et c'est aussi, il faut le dire, là, il faut qu'elle soit quand même à jour également, mais c'est important pour que les gens puissent naviguer de manière sécuritaire là, dans ce milieu.
Vous en avez parlé tantôt un peu là, lors de la table ronde et tout ça, mais Libra de Facebook, ça devient quand même un réel enjeu pour les gouvernements parce que par rapport au marché financier et tout ça, avec les moyens que Facebook a, ça va causer des maux de tête. Là.
Oui, Libra, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut voir de ce qu'il essaie de faire, quand on le voit, parce que c'est pas encore très, très clair, mais ce qu'il essaie de faire, c'est littéralement, ils veulent créer leur propre Western Union. Si on regarde leurs différentes plateformes, que ce soit Messenger ou WhatsApp, vous avez une grande communauté de gens qui se communiquent à travers le monde, mais ils ne peuvent pas s'envoyer de l'argent de la même manière. Mm-hmm. Fait que là, s'ils peuvent le faire de la même plateforme, ben c'est avantageux, ça sauve des coûts, les frais de transfert, l'argent est instantané à la bonne personne, puis ça peut créer un micro-écosystème qui a vraiment de la valeur. C'est très, très gros, mais évidemment, les gouvernements, ils capotent parce qu'ils se rendent compte que, ils savent pas où le prendre par là-dessus. Donc, mais il faut voir que le travail que Libra a fait, je le trouve quand même assez intéressant parce que les gens, ils apprennent c'est quoi Libra.
Ça accélère, en tout cas.
Exact.
Ça fait accélérer les choses.
Ça fait vraiment accélérer les choses parce que les gens, en apprenant comment Libra est fait, qui est un consortium de plusieurs compagnies qui contrôlent une monnaie ou qui a de la valeur selon différentes devises, mais ils sont capables de comparer par la suite à d'autres types de monnaies, comme le Bitcoin, qu'eux sont plus ouverts et que n'importe qui peut y participer, etc. Et je pense que les deux vont être capables de subsister ensemble. Mais c'est sûr que ça met à terre d'une certaine manière les gouvernements que là, ils sont obligés d'agir. Et on le voit, il y a des pays, il y a 13 pays présentement, je l'ai dit tout à l'heure durant le panel, mm-hmm. il y a 13 pays que 2020-2021, ils vont déjà introduire leur propre crypto-monnaie. Donc, ça va commencer de même, mais je pense qu'à long, long terme, un jour, parce qu'on chaque pays qui introduit sa propre crypto, ce qui arrive, c'est que les problèmes des gouvernements, ultimement, avec les dépenses et tout, c'est qu'ils finissent toujours par réimprimer leur monnaie, ça crée de l'hyperinflation. On le voit en Amérique du Sud, c'est le gros problème, et c'est pour ça que l'adoption des crypto-monnaies en ce moment, elle est très, très forte dans les pays tels que le Venezuela et l'Argentine, parce qu'il y a énormément d'hyperinflation et les gens veulent avoir une guerre de valeur. Ils ne croient plus dans la monnaie qui est là. Fait qu'à très, très long terme, je pense qu'on aura un jour un pays que sa réserve ou sa monnaie va être basée sur la réserve de Bitcoin qu'elle va avoir. Et quand ça va être à ce niveau-là, bon, là, ça va devenir vraiment un autre niveau là, politique au niveau des banques centrales.
On est au Québec. Dernière question. On a parlé tantôt, justement, de toute l'hydroélectricité puis du potentiel qu'on a ici puis tout ça. Est-ce que vous pensez qu'on aurait... Quel est l'avenir du blockchain, de la crypto-monnaie au Québec? Est-ce qu'on aurait intérêt, justement, au niveau gouvernemental à se positionner puis à être plus proactif?
Honnêtement, si j'étais les décideurs, je dirais qu'il y a une opportunité inimaginable, une opportunité en or. Il faut écouter... Là, c'est comme si au Québec, on est chanceux vu notre la situation géographique, vu aussi nos ressources naturelles, renouvelables. Les gens veulent venir ici, donc il faut qu'ils ouvrent les valves. Il faut vraiment ouvrir les valves parce que ça va être un avantage énorme pour la suite. Il faut comprendre
la demande.
Un peu comme on
l'a fait avec l'AI, mais...
Exact. Puis, il ne faut pas voir... on l'a dit tantôt, les gens essaient de différencier les deux, crypto-monnaie et blockchain, mais il faudrait voir plutôt que les crypto-monnaies vont être un peu le fondement. Tu sais, il y a l'infrastructure. Donc, vous voyez, le réseau Bitcoin peut être l'infrastructure de base sur laquelle beaucoup de projets par la suite vont être bâtis. Et là, si vous avez
le
beaucoup...
what's in it for me un peu, là. De...
Exact. Okay. Donc là, l'infrastructure est en train de se bâtir. Il faudrait que les décideurs fassent en sorte que cette infrastructure-là se passe ici et qu'on continue, et qu'il y ait le moins de friction possible. Parce qu'évidemment, dans tout marché, c'est ceux qui ont l'infrastructure qui gagnent le plus. On parlait de la 5G et tout, que la Chine est bien positionnée pour ça. Bien, tout le monde qui a l'infrastructure, c'est eux qui au final, gagne. Et on a un gros avantage au Québec d'avoir cette infrastructure. Il faut saisir l'opportunité. Et par la suite, mais on va avoir vraiment le Québec va avoir une empreinte par rapport au monde.
Bien, merci beaucoup pour l'entrevue. C'est très apprécié.
Merci à vous. C'est vraiment... Je suis content là, pour ce podcast. Merci beaucoup.
Ça va bien.
Merci d'avoir écouté le 6e podcast de Moncavius. J'espère que vous avez apprécié. Merci encore à Jean Duplain pour avoir réalisé les 4 entrevues que vous avez écoutées. On se retrouve pour le prochain podcast d'ici 2 semaines. Merci, au revoir, salut!